I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Anne-Gabrielle Doba-Pantanach, qui est la vice-présidente communication et relations publiques de Netflix France Europe du Sud. Bonjour Anne-Gabrielle.
Bonjour Alexis.
Bon bah on est honoré de t'accueillir au sein de notre podcast. C'est pas l'aboutissement, mais c'est vrai que bon, pour l'Entertainment Lab, de recevoir une personne, la communication des relations publiques, la vice-présidente en plus de Netflix France, c'est génial. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée chez Reed Hastings, j'ai envie de dire. Bon, je le cite forcément parce que c'est l'entrepreneur qui a quand même monté tout ça dans la suite de Blockbuster.
Père fondateur.
Voilà, Blockbuster, ça s'appelait au début. Hein.
Non, c'était deux entreprises séparées.
Il avait été
voir Blockbuster pour leur proposer de racheter Netflix à l'époque quand c'était pas grand-chose et Blockbuster avait dit non, ça nous intéresse pas. Et
d'accord.
Je crois qu'après, ils se sont mordus les doigts et ceux qui ont mis la clé sous la porte. Donc,
voilà, tu m'as appris que c'était deux structures. Les auditeurs viennent déjà d'apprendre un truc. Alors tout d'abord, ta trajectoire avant d'arriver, je crois que tu es passé par une autre firme aussi un peu marquante.
Oui, donc j'ai rejoint Netflix, ça fera bientôt 4 ans en septembre prochain. Auparavant, j'ai passé une douzaine d'années chez Google où je m'occupais déjà de la communication, des affaires publiques, j'étais porte-parole pour Google en France. Et auparavant, j'étais plutôt dans le secteur, je dirais, institutionnel et politique. J'avais accompagné un ministre de l'Industrie dans ses fonctions et je suis passée par la Commission européenne et également un organisme de recherche qui s'appelle le Commissariat à l'énergie atomique. Donc double parcours privé-public avec peut-être le point commun de toujours communiquer soit sur des sujets qui ont un très fort impact au niveau de la société, soit un lien effectivement culturel ou avec une forte composante d'innovation.
Donc tu avais déjà un intérêt culturel et entertainment avant d'aller chez Netflix.
Oui, et d'ailleurs, c'est marrant l'anecdote comme quoi dans la vie, c'est que des histoires de boucles et de reboucles. C'est qu'il y a donc une vingtaine d'années, lorsque j'avais fait mon expérience à la Commission européenne, c'était un stage de fin d'études où j'avais passé 6 mois. J'avais fait mon mémoire de fin d'études sur l'époque, le programme Média Plus, qui est un programme qui encourageait la diversité culturelle en Europe. Voilà, exactement. Et j'avais trouvé, puisque je travaillais au sein de la DG Éducation et Culture à l'époque, et j'avais trouvé ce sujet passionnant. J'avais fait mon mémoire de fin d'études au CELSA là-dessus. Et c'est fou parce que quand Netflix m'a appelé, ça a toujours été des sujets qui m'ont passionné. Les dimensions de soft power, de culture, le rayonnement de la France et de l'Europe de par le monde. De se dire, c'est assez incroyable. C'est des sujets où je vais certainement être à nouveau confrontée. Et c'est une façon de boucler la boucle en étant de l'autre côté, je dirais.
Bah oui, c'est intéressant. D'ailleurs, bon, il y a eu des tentatives en Europe, mais bon, peu on sont allés à l'échelle forcément d'un Netflix par son ampleur. Alors, on va arriver effectivement sur ton activité actuelle chez Netflix. Alors, c'est vrai que Netflix France, ils sont depuis combien de temps sur la zone que tu couvres finalement, Netflix ?
Donc Netflix, l'offre a été proposée aux Français en 2014 et on a ouvert nos bureaux, donc une présence vraiment physique avec des employés présents en janvier 2020.
D'accord, qui dépend d'un groupe européen qui est basé à Amsterdam, c'est ça ?
Exactement.
Et en France, donc ça représente combien de personnes,
Netflix ?
On est
plus d'une centaine de collaborateurs,
Centaines de collaborateurs.
120 maintenant.
Et donc communication et PR, tu as des publics assez variés, à la fois parler indirectement aux abonnés, parler aussi au pouvoir public, aux médias, c'est ça ? Tu dois toucher toute une série de...
C'est ça, on parle à toutes les parties prenantes. On a une équipe, j'ai une collègue avec qui je travaille très étroitement, Marie-Laure, qui couvre la partie relations institutionnelles, on travaille très étroitement. On travaille très étroitement également avec l'équipe marketing qui parle plus directement avec les gens, on va dire, les consommateurs, nos membres. Mais effectivement, on a une fonction très transversale dont l'objectif est à la fois de couvrir des enjeux de brand et de raconter, d'expliquer la contribution de Netflix en France et auprès des industries créatives. Ça, c'est la partie communication externe et une partie qui est plus publicity dans notre jargon, qui est vraiment les RP comme on peut voir dans les studios, où vraiment l'objectif c'est de communiquer sur les titres. Donc on fait séries, documentaires, films, également des programmes de flux, où vraiment on accompagne à la fois les talents dans leur tournée, on organise des événements et des avant-premières et toutes sortes d'événements pour faire connaître ces titres. Donc ça, c'est la partie, effectivement, publicity. Et on a aussi, au sein de ce métier, de cette fonction, des experts événementiels, des experts qui ont pour objectif de créer tout ce qui est les contenus photo et vidéo. On appelle ça PAVS dans notre jargon, photo et vidéo, qui est un élément très important et qui va être réutilisé sur les réseaux sociaux pour à des fins de promotion, etc. Donc, c'est vraiment une approche très transversale du métier.
Okay. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, en arrivant chez Netflix, depuis finalement les 4 ans que tu y es? Qu'est-ce qui t'a le plus frappé?
Ce qui est très intéressant chez Netflix, je crois, c'est la culture qui est extrêmement singulière. C'est vrai que tous les gens qui connaissent un peu Netflix ou qui le découvrent, c'est qu'au départ, on peut se dire, bon, c'est une boîte américaine, comme toutes les grosses boîtes américaines, c'est pareil que Disney, IBM ou Microsoft, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que pour comprendre Netflix et finalement les révolutions qu'a connues Netflix dans son business model depuis sa création il y a plus de 25 ans, c'est cette culture qui est très singulière. C'est le No Rules Rules qui a vraiment, j'ai envie de dire, conceptualisé Reed Hastings, son fondateur, qui est extrêmement singulière. Donc effectivement, vous devez apprendre un peu à désapprendre tous les réflexes que vous avez pu avoir en tant que manager. Si je donne quelques grandes idées, c'est contexte et not control. Dans la façon d'animer les équipes, vous devez au maximum donner du contexte et pas être en contrôle pour leur permettre de prendre des décisions eux-mêmes. C'est freedom and responsibility, c'est-à-dire que vous avez énormément de liberté décisionnelle, organisationnelle, mais qui est contrebalancé par beaucoup de responsabilités. Donc à vous d'exercer correctement votre jugement en permanence par plein de micro-décisions pour permettre vraiment les équipes d'être en situation de prendre des décisions sur leur précaré comme si c'était leur propre boîte. Et donc ça c'est quelques exemples, et ce qui permet du coup à la fois d'avoir des équipes extrêmement motivées, d'avoir un mode de fonctionnement qui est extrêmement rapide parce que ça ne remonte pas forcément très haut pour attendre que ça redescende, qui souvent crée de l'inertie dans la plupart des groupes et qui nous permettent de pivoter, de nous adapter aux circonstances très vite, d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être en conversation en interne mais aussi en externe. Donc c'est une culture très singulière. Donc ça m'a vraiment marqué, l'autonomie qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire que les équipes France ont beaucoup d'autonomie stratégique, opérationnelle. Et puis voilà, la vitesse, enfin, quand je suis arrivée, on était une vingtaine de collaborateurs. Près de 4 ans après, on est 120.
Tout en restant à taille humaine.
Maintenant, on a à peu près chaque année entre 20 et 25 productions originales françaises, entre séries, films, documentaires et programmes de flux. Donc voilà, tout ça, on accompagne une aventure entrepreneuriale à l'échelle française.
Et cette culture, ça passe aussi par des formations, des workshops, des ateliers, des séminaires, ou c'est aussi beaucoup par les gens qui recrutent? Il y a une culture, on la sent déjà avec les gens présents.
Alors, on a effectivement une attention toute particulière portée au recrutement. C'est-à-dire que je dis souvent, chez Netflix, ça peut ne pas marcher pour vous, et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas brillant ou compétent, ça n'a rien à voir. C'est est-ce que vous êtes adapté pour travailler au sein de cette culture? C'est une hiérarchie très plate, on n'est pas attaché spécialement à des titres ou à un nombre de niveaux ou de layers indescriptibles. Donc, et on demande aussi souvent aux personnes que l'on recrute d'être à la fois très stratégiques, mais également très opérationnel, avoir une capacité de suivre la mise en œuvre opérationnelle pour valider l'approche stratégique. Donc effectivement, le recrutement, il y a vraiment une importance tout à fait importante au niveau du recrutement. Reed Hastings dit souvent que ce qu'on recherche, c'est pas une famille, c'est une équipe d'athlètes, de sportifs de haut niveau, qui remettent leur sélection chaque année. Et donc du coup voilà, c'est vraiment si on prend je sais pas l'exemple du baseball ou autre, c'est ce qu'on va être sélectionné,
c'est une team quoi, on sent le côté founder startup qui reste
un petit peu, et en essayant de toujours de faire du mieux qu'on peut, de se réinventer, de prendre des risques. Donc voilà, et après effectivement il peut y avoir des formations pour s'assurer que tout le monde comprend cette culture, mais il faut avant tout la vivre, je crois.
Donc on va faire le petit point sur l'histoire Netflix en France. Donc tu disais depuis 2014, donc ça fait déjà plus de pratiquement 9 ans. Donc il y a eu des étapes fortes de développement. Bon, c'est sûr que la crise Covid, ça a pas mal aidé un petit peu Netflix, hein. les différenciations. Comment tu dirais, voilà, comment s'est apparue la différenciation sur l'univers des plateformes par rapport à Netflix? C'est le côté pionnier. Et c'est quoi la difficulté d'un tel modèle? C'est toujours se renouveler? C'est ça qui est difficile?
Alors, sur le point de différenciation, je pense que ce qui est intéressant à considérer, c'est que parmi, effectivement, l'univers est de plus en plus, j'ai envie de dire, riche et occupé.
Oui.
Mais nous sommes le seul acteur qui fait ça du matin au soir. On est un pure player où notre seul métier, c'est de vraiment créer, produire, distribuer des contenus. L'autre spécificité, c'est que nous, on a un modèle vraiment direct to consumer. Donc vraiment, ce que l'on fait, c'est avant tout pour nos abonnés. On est vraiment là, c'est-à-dire que c'est eux qui financent toutes ces créations. À l'échelle mondiale, c'est à peu près 15 à 17 milliards d'investissements dans les contenus. Mmh. Et ce sont les abonnés qui le financent. Et donc pour nous, c'est extrêmement important d'apporter une satisfaction. Et l'autre élément de différenciation, en plus d'être un pure player et de ne faire que ça du matin au soir depuis 25 ans, c'est on a cette approche de dire de divertir le plus grand nombre dans 190 pays. Donc on a une approche vraiment de diversité, de variété, de par le catalogue, pour satisfaire aussi bien un public familial que des gens qui vont adorer des contenus K-content coréens, en passant par des documentaires ou des contenus très pop-corn, voilà, avec une proposition plus auteur sur certains films qu'on peut trouver aussi. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts, et avant tout, c'est vous qui êtes... en capacité de faire votre choix.
C'est intéressant que tu dises pure player, parce que c'est vrai que tous les autres, finalement, viennent d'émanations et de groupes déjà existants. Donc la marque de fabrique, c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'il y a une connaissance un peu plus fine, finalement, au départ, des goûts des gens, qui a permis une audace dans les premiers projets. Je pense à House of Cards, je pense aussi à Roma quand tu as parlé de l'audace.
Oui,
c'est ça, tu dirais. Mais il y a ce goût plus proche de la base, en fait, qui a été perdu un peu par des studios ou des autres acteurs.
En effet, déjà, les équipes qui composent Netflix dans le monde, on a à peu près 10 000 collaborateurs, sont vraiment des passionnés. Ils viennent vraiment de la culture du divertissement. Ils viennent vraiment, donc, que ce soit au niveau des séries, des films, des documentaires, c'est des gens qui viennent de cet univers, qui ont la passion de l'histoire, d'écrire une histoire, de se poser sans arrêt la question de qu'est-ce qu'une bonne histoire, de pouvoir refléter la société dans sa complexité. Donc ça, c'est une jambe qui est vraiment la jambe entertainment, divertissement, qui est celle des contenus. Et l'autre jambe, qui est la jambe plus innovation tech, qui est effectivement pouvoir proposer la meilleure expérience en termes d'interface, de choix, de se dire que vous avez une expérience qui va être sans couture, que vous commencez à regarder sur votre télé, vous continuez sur votre tablette ou sur votre téléphone, se dire voilà, ça va être vraiment extrêmement fin et sans couture, et avec cette force aussi de la recommandation, parce que le Netflix, que votre Netflix, Alexis, ne sera pas le même que celui de votre enfant, votre femme ou d'un ami, quoi.
C'est sûr. Et donc dans les équipes, c'est à peu près, tu dis à peu près kiff-kiff entre les contenus d'un côté et la tech de l'autre dans les répartitions.
Alors maintenant, on a plus d'équipes contenu. On a vraiment le
gros, c'est contenu.
Ouais, maintenant c'est le gros, c'est contenu. On est présent à Los Angeles, qui est vraiment le cœur.
Il est toujours là, le Ted Sarandos.
Bien sûr, c'est le co-CEO de Netflix maintenant, aux côtés de Brad Peter,
d'accord. Qui est clé, lui, parce que c'est lui qui a pu sourcer tous les partenariats avec les studios, les réalisateurs, etc.
Donc Ted, c'est notre co-CEO, et puis l'autre CEO est Greg Peters maintenant, puisque Reed. A pris un petit peu du champ, du large, après toutes ces années vraiment où il s'est dédié à son entreprise. Et donc l'autre jambe est basée à Los Gatos, ce sont vraiment nos équipes d'ingénieurs. Donc on a une jambe à Los Gatos, une jambe à LA, pour essayer de proposer le meilleur des deux.
Tu y allais déjà ? Tu as eu la chance d'y aller ?
Oui, tout à fait.
C'est marquant ?
Oui, c'est marquant. Non, bah, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'aller à Hollywood, de voir ça, de voir ces studios. Mais je dois dire qu'en termes de studios et plateaux de tournage, on a la chance en Europe, en Espagne, à Tres Cantos, à une heure de Madrid, d'avoir parmi les plus grands plateaux de tournage en Europe. On a 10 plateaux de tournage avec le Nec plus Ultra, de l'innovation en termes de doublage, qui sont accessibles pour les productions Netflix, mais aussi pour des producteurs qui souhaiteraient pouvoir en bénéficier et les louer.
C'est là-bas qu'ils avaient fait Casa de Papel,
c'est
une
là-bas,
partie.
C'est là-bas, exactement. Et donc, on avait fait la série Criminals aussi, qui était disponible en français, en anglais et en espagnol. Et donc, c'est aussi intéressant de voir que le centre de gravité aussi se développe de plus en plus dans d'autres régions du monde, en Europe, IMI et également en Asie.
Bon, bah, on se rapproche des contenus, justement, comme on a mentionné Ted Sarandos, pour parler un petit peu des projets. Alors, moi, j'ai quand même une question de curiosité, parce que, comme beaucoup, j'avais été beaucoup marqué par l'exemple d'House of Cards, qui avait lancé surtout tout ce qu'avait dit Kevin Spacey au lancement, que ça avait été refusé par ABC et qu'avec David Fincher, ça a été fait avec Netflix. Je trouve que ce cas, finalement, il a fait date. Comment continuer à avoir une audace comme ça? C'est une question que je me pose, parce que ça avait quand même fait date à l'époque, ça avait été un peu coup de poing. Comment voir ça? Parce que c'est ça qui n'est pas facile.
Non, mais c'est tous les jours, les questions que se posent nos créatifs, c'est de se dire, est-ce qu'on a à la fois un contenu qui va pouvoir intéresser? C'est vraiment un métier de prototypage, oui, d'artisanat. C'est-à-dire que souvent, on entend quelles sont les recettes et recibler les mêmes recettes. Et en fait, pas du tout, parce que déjà, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui sera un succès. Squid Game, on ne l'a absolument pas vu venir. Mmh. C'est un contenu coréen qui est effectivement l'une des séries les plus vues dans l'histoire de Netflix, qui on pourrait dire quand même au départ assez niche par son histoire, qui avait été régulièrement refusée en Corée aussi. Oui. Son créateur le raconte, qui a été un succès planétaire. Le jeu de la dame également. Mmh. Ah oui. Donc toutes ces séries, on ne les a pas vues. Et d'ailleurs, nous, notre rôle en tant qu'effectivement équipe de communication RP ou marketing, c'est que on a tellement de contenu qu'on ne les voit pas forcément venir, mais comment on va ensuite accompagner ce succès pour justement nourrir la conversation, l'amplifier. Donc, on doit être capable d'identifier les signaux faibles quand il y a quelque chose qui décolle. Mais c'est très difficile d'identifier en amont ce qu'est-ce qui fera un succès.
C'est comme au ciné d'ailleurs. Hein. Voilà. Les gens qui auraient pu dire en amont que les grands films ont cartonné, il n'y en a pas tant que
exactement.
Ça. Toi, ton regard, là, je sors un petit peu ton rôle de communicante, ton rôle de spectatrice. Comment tu vis le sujet du choix? Parce que ça, beaucoup d'éditeurs qui vont écouter, c'est le truc difficile. Comment on peut ne pas perdre trop de temps à choisir? C'est ça l'enjeu un petit peu. Ils doivent plancher les ingénieurs de Netflix.
Oui, bien sûr. Alors, je pense que par rapport au service Netflix, la plateforme en tant que telle, c'est en effet beaucoup basé. Alors déjà, moi, ma recommandation, c'est que dans une famille, effectivement, lorsque vous avez un abonnement, vous avez plusieurs profils. C'est que chacun vraiment se connecte sur son profil. Parce que plus vous allez indiquer à Netflix ce que vous aimez, plus il va, par défaut, essayer de vous pousser des choses qui seraient susceptibles de vous intéresser. Donc, du coup, vous passerez moins de temps. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que moi, je suis arrivée à la conclusion que voilà, l'être humain est complexe et que selon la journée que vous avez passée, vous n'avez pas envie de regarder la même chose. Il y a des fois, vous avez envie juste de vous débrancher le cerveau et de regarder un petit Emily in Paris qui va être le petit bonbon sucré. Vous ne posez pas de questions et ça vous fait voyager. Il n'y a pas trop d'enjeux. Et puis, il y a un autre jour, vous allez vouloir regarder un documentaire bien pointu sur un sujet et vous en ressortir en disant peut-être que j'ai appris des choses et voilà, je me sens nourrie d'une nouvelle chose. D'autres fois, vous allez regarder des choses qui vous ont plu et puis parfois d'avoir un moment familial le vendredi soir.
Ça dépend beaucoup du mood, t'as raison.
Ça dépend de l'humeur. C'est ça la force des choses, c'est de se dire quelle est mon humeur, qu'est-ce que j'ai envie de regarder en fonction de mon humeur. Et ça, c'est très important. Et l'autre chose, c'est que de plus en plus, nous, on essaie de faire ça. C'est beaucoup de travail de curation, c'est-à-dire comment on va travailler soit avec des journalistes, soit avec effectivement parfois des réals, les gens qui vont pouvoir proposer des collections sur des thématiques. Et ça, on explore de plus en plus ça. Par exemple, avec notre partenaire, la Cinémathèque, quand ils font une grande rétrospective sur Romy Schneider, on rebondit là-dessus et on va proposer à nos abonnés les 9 meilleurs films de Romy Schneider les plus célèbres pour prolonger l'expérience et redécouvrir ça. C'est un exemple où c'est très difficile de retrouver ces films maintenant, sincèrement, et de se dire revoir La Piscine, revoir tel ou tel film.
Il y a les Truffaut aussi sur...
Les Truffaut, les Godard, on fait régulièrement...
C'est vrai que les classiques, c'est bien d'y revenir à des moments aussi, je trouve.
Voilà, d'y revenir. Et puis surtout, on part du principe que ça peut nourrir la cinéphilie des jeunes. C'est que vous pouvez très bien regarder un Stranger Things et puis se dire pourquoi pas, j'ai entendu parler de ce film de Godard, j'ai envie de je vais le regarder, il est là, c'est facile et j'ai envie de dire, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et donc c'est aussi ça qu'on propose.
Donc c'est un complément aussi au cinéma. C'est vrai qu'on a tendance beaucoup à les opposer, mais finalement on voit bien que maintenant c'est complètement imbriqué les deux.
C'est une complémentarité.
Tu étais au festival, j'imagine,
ouais,
à Cannes.
Oui, bien sûr. Moi je suis convaincue que c'est des complémentarités d'usage. Comme
ils ont cofinancé d'ailleurs à ce festival, tu avais du Netflix qui a pu cofinancer des œuvres ou pas?
On a préacheté, on a été préfinancé le Jeanne du Barry qui était en ouverture du festival de Cannes, qui est effectivement
C'est nouveau aussi de revenir un petit peu plus tôt dans la chaîne de financement.
En fait, c'est dans le cadre de nos obligations d'investissement puisque effectivement on est l'un des acteurs qui a signé cette chronologie des médias et qui s'insère effectivement dans le financement du cinéma français. Et donc, on a en effet contribué à préfinancer ce film qu'on pourra ensuite découvrir dans 15 mois voilà, sur Netflix. Et donc, oui, moi, je suis convaincue.
Ça, c'est bien d'avoir fait ça, parce que c'est vraiment, ça s'insère de manière intelligente dans le tissu culturel. Et donc, on ne peut plus taxer d'être, entre guillemets, en frontal avec ces secteurs, ouais, qui est un peu une vue un peu ancienne de l'esprit.
Quand vous contribuez à près de 200 millions d'euros d'investissement par an en France dans la création, séries, films, docu confondus, c'est difficile.
C'est un nouveau guichet très important,
voilà,
pour les producteurs.
De dire qu'on est uniquement un disrupteur, c'est que je pense qu'on est complètement un acteur qui a pleinement sa place, qui contribue et qui donne des possibilités, des débouchés à beaucoup d'auteurs, réalisateurs, scénaristes.
Exactement. Alors, tu en as parlé, tu as dit que les formats, ils s'ouvraient beaucoup, puisque je sais qu'il y a un projet, tu vas en parler, sur le Tour de France, qui est en train d'arriver. Ça veut dire que ça s'ouvre pas mal en format depuis le Covid, notamment les 3 dernières années. On sait que les docus deviennent très importants, il y a des formats d'émissions un peu nouveaux.
Oui,
c'est
tout
ça,
à fait,
ça devient finalement plus complet. On n'est pas que sur la série et les unitaires.
Oui, effectivement, c'est-à-dire que notre point d'entrée, au départ, on est connu pour les séries, ensuite les films. Donc c'est vraiment à la mesure du développement de Netflix. On a d'abord été connu, si on reprend, il y a des années au départ, on faisait essentiellement de l'acquisition de séries, après on s'est mis à faire de la production originale de séries, et puis la même chose pour les films, au départ de l'acquisition, maintenant de la production originale de grands films, de Don't Look Up à la main de Dieu de Paolo Sorrentino. C'est pareil, effectivement, je crois qu'on a quand même, on est assez reconnu dans le domaine du documentaire, avec des documentaires sur des sujets extrêmement variés. Et le docu sportif de Drive to Survive, le Tour de France au cœur du peloton qui sort le 8 juin est un exemple. Pour nous, c'est intéressant de nous attaquer à une IP hyper française et de pouvoir la proposer sous un angle différent, c'est-à-dire les coulisses du Tour, décrypter le Tour, décrypter les stratégies, les émotions, ce qui se passe qu'on ne comprend pas forcément quand on le regarde. Et donc, je pense que ça permettra de, j'ai envie de dire, savourer encore plus ceux qui aiment le Tour de France lorsqu'ils le verront l'été prochain. C'est qu'effectivement, quand on comprend les coulisses, on a un regard différent qui est porté dessus.
Donc un côté un peu plus société qui arrive et actu, tu le disais. Alors on va parler aussi de Brand Entertainment. Ça, c'est intéressant, c'est que je sais qu'il y a souvent eu des OP événementiels qui sont des relais. Je sais qu'il y avait eu pour Casa de Papel, etc. Ça, tu peux peut-être en parler. Et je sais que Lacoste aussi a été un cas un peu notable.
Oui, tout à fait. On se pose toujours la question de se dire par rapport à un contenu donné, donc un programme que l'on propose, une série, un film, comment on peut prolonger cette expérience et être en conversation avec nos fans, avec les membres. Et donc, effectivement, un exemple autour de Stranger Things, on avait créé le Stranger Things Festival au Cirque d'Hiver où on pouvait retrouver tout l'univers de Stranger Things et pour les passionnés. Et c'est vraiment sympa de se dire de voir des millions de personnes, des milliers de personnes qui font la queue pour rentrer et vivre ça. Pour Lacoste, c'était effectivement une collaboration unique qui a été proposée dans le monde de deux marques iconiques, Lacoste, Netflix. Je crois que c'est la première fois que Lacoste, en presque 100 ans, 4 ans, 90 ans, s'associe à une marque. Et donc, on s'est amusé à décliner le logo Lacoste autour de certaines séries iconiques comme Stranger Things, comme Sex Education, comme Lupin ou Bridgerton. Et effectivement, pour le plaisir des abonnés, des fans. Donc, on rentre vraiment, là, on est vraiment dans la pop culture. On est vraiment dans les conversations que vous pouvez avoir à la machine à café. Et donc, c'est intéressant de proposer ça et de prolonger cette expérience.
C'est marrant de voir que les mondes des marques, là, commencent à arriver dans les plateformes entre vous et puis Amazon, je vais le citer quand même, qui a fait Air avec l'histoire de Nike. Tu l'as regardé aussi quand même?
Ouais,
tout à fait. Bon, tu regardes quand même les autres plateformes aussi.
Bien sûr, mais c'est passionnant de voir ce qui se fait ailleurs et de voir la créativité de part et d'autre.
Tu crois que ça va arriver de plus en plus, ce monde des marques, des histoires de marques qui vont se transférer dans plateforme et peut-être à cofinancer, ou c'est pas si simple parce qu'il faut trouver les sujets
artistiques? Je pense que le tout, c'est en effet, c'est aussi l'histoire et je pense que nous, tout passe toujours par les programmes et l'histoire. C'est-à-dire que lorsque une bonne histoire représente des sujets de société, elle représente la société dans sa complexité, dans sa diversité, effectivement, c'est un terrain de jeu qui peut être intéressant et ça peut être fait avec les marques, mais à condition qu'il y ait une authenticité, quoi, que ça soit pas uniquement une récupération et que ça soit aligné soit avec les valeurs de marque, soit avec ce qu'ils font eux-mêmes sur certains sujets, quoi.
Toi qui es côté communication, tu vois aussi une vraie maturité sur l'aspect numérique et social média. On avait reçu effectivement Emmanuel Pujol qui est côté Netflix. Je sais qu'ils sont souvent vus comme précurseurs Netflix. Vous êtes vus comme précurseurs sur cet aspect social média aussi.
Ah oui, tout à
fait. Et il y a une vraie team d'ailleurs dédiée à ce travail. Comment tu le vois, toi, de l'intérieur?
C'est sûr que c'est un travail. On a une équipe, en effet, qui est, j'avoue, qui est au top sur ces sujets, qui est vraiment à l'écoute de des membres, qui est vraiment en conversation permanente. Ce qui avait été un petit peu fondateur, c'était le fameux tweet est-ce qu'on se tutoie, lorsqu'on avait lancé effectivement notre compte Twitter. La présence de Netflix sur les réseaux sociaux actuellement, c'est 24 millions de followers, hein, donc entre Twitter, Facebook, Insta, TikTok, etc. Donc déjà, ça, c'est une grande responsabilité, parce qu'en effet, on est une chambre d'écho énorme. Donc c'est important de pouvoir avoir, j'ai envie de dire, pouvoir relayer les bonnes histoires, d'être au bon niveau, et puis également d'avoir un enjeu un petit peu d'authenticité, d'alignement par rapport à nos valeurs de marque. Super. Et en effet, ça, c'est les équipes se posent sans arrêt la question de se dire, est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on a la bonne conversation? Et donc, en effet, ça implique d'être extrêmement à l'écoute et puis très humble aussi sur ces sujets.
Et c'est pas si simple, parce que de communiquer sur les programmes, entre les enjeux de ce qu'on peut montrer, des timings, des ayants droit, c'est pas si simple.
C'est un vrai métier, ça c'est sûr.
Oui, on est d'accord.
Qui prend beaucoup de temps, et en effet, on a des équipes, on peut dire, assez pionnières sur ce sujet, et c'est très intéressant aussi de voir comment on porte ces sujets, à la fois des enjeux de titre, comme tu viens de dire, mais des enjeux de marque, et comment on crée des ponts entre les titres et la marque.
En termes de tendance, tu dirais que tout ce qui est externe en prod tend à monter par rapport à l'internalisation, tout ce qui est prod originals, ou c'est un peu équilibré?
Tu veux dire d'un point de vue quoi, réseaux sociaux ou nos originals?
Non, vos propres contenus, est-ce qu'il y a plutôt une tendance à de plus en plus produire en interne, ou finalement faire appel à des prods externes?
L'essentiel de nos contenus sont en prod externe.
D'accord.
On travaille avec quasiment tout ce que l'on compte de producteurs en France.
D'accord.
Petite
donc
taille,
original,
taille,
c'est 10%, quoi. C'est beaucoup plus petit, quoi.
C'est vraiment nos ce qu'on appelle original, alors après on rentre dans des choses techniques, les Netflix originals, c'est effectivement les productions qu'on commissionne, où on
oui,
est vraiment
vrai. T'as déjà
à l'origine depuis
oui.
le début, mais effectivement on s'associe, on travaille avec des partenaires producteurs qui vont être là effectivement pour mener à bien ce sujet. Donc soit c'est eux qui nous apportent des concepts, des stories, soit c'est nous qui avons une idée et on essaie d'identifier la bonne boîte de prod et le bon scénariste, le bon auteur qui va donner, lui permettre de voir le jour. Mais effectivement, c'est toujours avec un approche de producteur-partenaire.
Là où c'est très fort, c'est Netflix aussi. Là, ce sera plus pour les auditeurs, plus techniciens de la production. C'est que dans le modèle, c'est différent parce qu'il y a un achat de droits et ensuite, il n'y a pas forcément tout le sujet du juridique dans des contrats de prod audiovisuel, enfin de mémoire.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Il me semble, alors là, je ne veux pas dire une bêtise, mais que je pensais que quand vous achetiez les droits d'un programme, ensuite, finalement... il n'y a pas forcément d'incentive pour le producteur sur les résultats. Enfin, je ne sais pas si tu sais ce
Alors,
ce
ça
point.
Dépend déjà, il faut distinguer déjà ce qui relève de l'acquisition, effectivement, des films que l'on peut faire en termes d'acquisition ou séries, et ce que l'on peut faire, ou effectivement, c'est nous qui sommes à l'origine et qui commissionnons. Donc,
c'est deux cas de figure différents.
C'est deux cas différents. D'ailleurs, dans nos équipes films, on a eu des personnes comme Sarah qui est vraiment en charge de tout ce qu'on appelle licensing, donc qui est vraiment l'idée d'identifier des films qui sont déjà proposés, existants, etc., et qu'on va acheter pour nourrir le catalogue. Et en revanche, Gaëlle, qui est dans notre équipe et qui va être à l'origine d'un film de A à Z, en lien avec, effectivement, un auteur, un réalisateur et un producteur. Et là, on est vraiment dans la co-construction.
Donc c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend du prototype.
Fait.
OK, ça marche. J'arrive dans la dernière partie du podcast. En tout cas, je pense que les auditeurs vont beaucoup apprécier. Alors là, c'est plus sur tes goûts personnels, justement, en termes de ciné, de séries, de musique ou BD, même quelques créations qui, toi, t'inspirent.
Je dirais que j'ai des goûts vraiment hyper éclectiques, donc là aussi ça revient avec la question de selon l'humeur, etc. Écoute, en bande dessinée, moi j'aime beaucoup Riyad Satouf, effectivement L'Arabe du futur, je les ai tous dévorés. J'adore Guy de Lille, Chronique Birmane, Chronique de Jérusalem, donc ça c'est des contenus. Moi j'adore tout ce qui est aussi journaliste, reporter.
T'as aimé Fauda, forcément je te pose la question.
Donc,
t'as parlé
du coup,
de Jérusalem.
Effectivement, dans mes séries, j'adore Fauda, j'ai un tropisme pour tout ce qui se passe au Moyen-Orient, j'ai toujours un vrai intérêt sur ces sujets. J'ai adoré Le Bureau des légendes, mais j'ai adoré aussi la série Made avec la fille d'Andy McDowell qui m'a vraiment beaucoup sensibilisée sur l'enjeu des filles mères aux États-Unis et ces enjeux de shelter et comment on aider, enfin qui est hyper intéressant, hyper bien joué. Voilà, dans le cinéma, effectivement, ça va de contenu très grand public. On parlait de Don't Look Up, qui est vraiment un film génial, effectivement, avec Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, que j'aime beaucoup, en passant par, j'adore Almodovar, à des références plus classiques, j'adore Les Sautés, qui pour moi sont un décryptage de de la France d'une époque. Voilà, donc effectivement, j'ai des goûts, j'avoue, à des Wong Kar-wai, vraiment variés, ça dépend... Vraiment l'humeur, exactement pour la musique. J'aime aussi bien le jazz que le blues, que de la bonne variété où on peut chanter dessus, ou un bon Johnny. Donc voilà, j'ai des goûts très, très éclectiques.
Et au ciné, le dernier film qui t'a marqué, ça aurait été lequel, tu dirais ?
Le dernier film qui m'a marqué, lequel j'ai vu, j'ai bien aimé Au revoir Paris. Voilà,
oui,
j'ai
très bon film avec Virginie Efira.
J'aime beaucoup Virginie Efira. Je trouve qu'elle a un super jeu et une grande palette. Donc ouais, j'ai bien aimé ce film. Ouais.
Parfait. Bah, Laurent, son agent est venu. Il a dit elle était insolemment douée. Je reprends ses termes.
C'était vraiment... C'est une super, super actrice.
Et alors, la toute dernière question, c'est plus les conseils que tu donnerais peut-être un peu en regardant sur ton parcours. Les conseils que tu donnerais à un ou une jeune qui veut aller travailler chez Netflix ou peut-être un grand acteur de la technologie et du divertissement.
Je pense que mes conseils, c'est au-delà de Netflix, parce que c'est vrai qu'avant d'arriver sur une chose, j'ai envie de dire comment rentrer peut-être déjà dans le milieu professionnel, quel qu'il soit, qui est déjà, je pense, une première étape. Moi, je dirais de la curiosité, ça, c'est vraiment... et ne pas faire la fine bouche. Moi, je sais que quand j'étais étudiante, j'ai fait beaucoup de stages en parallèle de mes études. J'ai beaucoup de stages. Au début, on n'était pas tellement payés, mais j'étais curieuse, je posais des questions, j'ai multiplié les expériences. Donc, aller très vite au contact des expériences professionnelles, parce que déjà, ça permet de savoir ce que l'on ne veut pas faire. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, je dirais, moi, j'ai jamais eu de parcours tout tracé, absolument pas. J'ai souvent saisi les opportunités comme elles venaient, mais en me raccrochant à ce que j'aimais et mes sujets d'intérêt. Parce que je pense qu'on est...
T'étais déjà étudiante passionnée de ciné, série.
J'étais au départ, moi, passionnée par le milieu de l'information et de la communication, qui est le cœur de mon métier, communication, relations publiques, influence. Au départ, j'ai voulu faire du journalisme, j'ai fait des études aussi de journalisme. Donc ça, dès le collège, j'ai aimé ce sujet. Voilà. Il y a effectivement, par extension, les médias au sens large, et puis après l'univers de la culture, de l'entertainment. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant après d'aller vers ce sur quoi on a une appétence naturelle, parce que je pense que c'est plus facile. On a moins l'impression de travailler, quand bien même on travaille beaucoup, lorsqu'on va vers des choses qui nous sont naturelles et qui nous parlent. Et puis voilà, je pense être curieux. Et puis bien sûr, il y a du travail, hein. Il n'y a rien sans rien sans le travail. Mais on a moins l'impression de travailler quand on est dans des domaines ou des secteurs qui nous intéressent. Parce qu'après, il y a une implication, une imbrication perso-pro qui fait que c'est un plaisir de se lever le matin et de se dire « je vais apprendre des choses ». Moi, j'ai toujours eu à cœur d'apprendre des choses et je souhaite que ce sentiment ne se tarisse jamais.
Bah exactement, c'est la citation « aimez ce que vous faites et jamais vous ne travaillerez ». C'était de Confucius ou je ne sais plus.
Voilà, je crois citation. Que...
Anne-Gabrielle, en tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir.
Merci, Alexis.
Pour tout ce parcours et cette sacrée trajectoire. Et je pense que ça va intéresser tous nos auditeurs de l'Entertainment Lab. Merci beaucoup à toi.
Au revoir.
Au revoir.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section « Notes et avis » sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.